proposer quelques conférences ateliers, quelques webinaires pour justement accompagner ce mouvement, ce parcours de formation en ligne. Alors, la perspective de transition intérieure, c'est vraiment d'allier, voilà, c'est quelque chose qu'on dit souvent, la tête, le cœur et les mains. Et ce qui veut dire qu'on ne peut pas dissocier l'action, l'engagement concret pour la transition, le travail sur et avec les émotions et la compréhension intellectuelle des enjeux. Donc, vraiment, les trois sont profondément, sont indissociables et forment un tout. Et d'un autre point de vue, si on veut réaliser le changement de paradigme, ce changement de paradigme que constitue cette grande transition écologique et sociale à laquelle la situation actuelle de la planète nous appelle, eh bien, si on veut réaliser ce changement de paradigme, il convient d'articuler, et ce n'est pas une mince affaire, c'est complexe, c'est un vrai défi, d'articuler les dimensions personnelles et collectives, intérieures et extérieures, et je dirais même spirituelles et politiques du changement. Et pour ça, on a besoin d'un cadre de réflexion, on a besoin d'une vision holistique qui va justement permettre de resituer et de donner toute sa plénitude de sens à notre engagement. Alors, comme modèle pour ça, le MOOC, c'est dans le module 5 qui a été ouvert il y a 2 semaines et qui s'intitule « Explorer les dimensions intérieures de la transition ». Donc, le MOOC, pour ça, propose l'approche en 4 cadrans du philosophe américain Ken Wilber. C'est un outil absolument passionnant. Si vous ne l'avez pas encore fait, que je vous invite à aller vraiment découvrir sur le MOOC. Mais ce soir, en complément de ce modèle, nous vous proposons de découvrir, d'explorer, et puis en fait, j'aurais envie de dire de s'approprier, de nous approprier une approche de la transition intégrale par strates. Alors, cette approche, elle a été développée par notre intervenante de ce soir, Charlotte Leuix, que j'ai la grande joie d'accueillir. Bonsoir, Charlotte. Et Charlotte est belge, elle habite à Louvain-la-Neuve, au sud de Bruxelles. Elle est docteure en philosophie, passionnée des enjeux philosophiques de la crise écologique. Alors, elle partage son temps entre les cours qu'elle donne à l'université, à l'UCL Louvain. Sa famille, Charlotte est mariée, elle a 4 enfants. Divers projets d'écriture et d'échange autour de l'écologie, de l'écoféminisme, de la transition et de l'éco-spiritualité. Et elle a publié en 2020, en fait à la fin de l'année dernière, un ouvrage intitulé Écophilosophie, racines et enjeux philosophiques de la crise écologique. Ça a été publié chez Academia. Voilà. Et en fait, eh bien, une remarquable synthèse de cette approche, de son approche par strates qu'elle va nous présenter, a été publiée par l'excellente revue en ligne. Là aussi, on vous donnera le lien. Je vous invite à aller voir cette revue et évidemment à découvrir cet article. C'est une revue qui est dirigée par le philosophe Dominique Bou, qui s'appelle La pensée écologique. Et en fait, eh bien, vous trouverez le lien aussi vers cet article sur l'écologie intégrale dans les ressources complémentaires de ce module 5 du MOOC. Mais de toute façon, on va vous redonner tout ça dans le chat et dans le mail de suivi. Voilà. Charlotte, grand merci d'avoir accepté notre invitation. C'est vraiment une grande, grande joie de t'avoir avec nous ce soir. Et voilà, à toi la parole pour une quarantaine de minutes.
Oui.
On s'entend pas, tu as des branches.
Débrancher le son. Bonsoir à toutes et tous. Merci beaucoup, Michel, Maxime, et merci beaucoup au laboratoire de la transition intérieure de m'avoir invité ce soir. Je suis très honorée, voilà, d'avoir l'opportunité d'échanger avec vous et de vous présenter quelques réflexions que j'ai sur les thèmes qui nous rassemblent ici, c'est-à-dire l'idée d'une transition qui soit la plus intégrative possible et qui puisse amorcer ce changement de société dont on a grand besoin. Je vais partager mon écran pour pouvoir vous montrer le petit PowerPoint que je vous ai préparé. Alors, est-ce qu'on voit bien là? OK. Alors, voilà, vers une transition intégrale. Le mot intégral, je le trouve intéressant parce que je trouve qu'à l'heure actuelle, On a vraiment besoin de développer des modèles qui présentent justement une forme intégrale ou pour le coup intégrative. Alors intégrale, ça ne veut pas dire qu'on dit tout de tout et que ça totalise, mais ça veut dire qu'on essaye de mettre ensemble une palette assez diversifiée de dimensions et de les reconnaître dans leur complexité. Donc des modèles holistiques émergent à l'heure actuelle. Et celui que je vais vous présenter aujourd'hui, voilà, est un de ceux-là. Alors, ces différents modèles, ce qui rassemble ces différents modèles, j'ai quelques caractéristiques. Donc, c'est qu'ils présentent des visions globales, qu'ils sont ce que Ken Wilber appelle simplex. C'est en fait la fusion du mot simple et complexe, c'est-à-dire que c'est généralement des visuels qui sont assez faciles à percevoir intuitivement, qui donnent une image claire et un peu instantanée de quelque chose qui a l'air simple et qui, en même temps, derrière cette image simple, il y a une palette de dimensions qui sont mises en lien et qui sont connectées visuellement et qui permettent d'intégrer des dimensions qui, jusque-là, étaient mises en opposition. Ce faisant, ça permet justement de créer des liens nouveaux entre les enjeux. Alors, pour illustrer ce que je veux dire par là, je vous montre trois modèles et le troisième, c'est le mien, c'est celui des strates que je développerai, mais juste pour illustrer cette idée de modèle holistique, je voulais vous montrer ce graphe-là que j'imagine vous avez déjà vu, puisque vous êtes assez bien versé dans les questions de transition. Donc, c'est le donut de Keith Howard, qui est un modèle qui permet de mettre ensemble les limites planétaires sur le plan écologique, sur le plan scientifique, avec au centre du donut les limites sociales. Je ne vais pas développer le modèle, je vous invite à aller en voir davantage sur le net ou ailleurs pour l'approfondir si vous ne le connaissez pas. Mais en tout cas, c'est clairement un modèle que je trouve qui est holistique parce qu'il permet de rejoindre deux grandes artères de la pensée contemporaine avec des enjeux cruciaux et en un visuel de nous permettre de les comprendre ensemble et de voir comment finalement avoir une vision claire des enjeux des objectifs à poursuivre. Alors, ça ne résout pas évidemment tous les problèmes que d'avoir le visuel, mais enfin, ça permet un cadre intégratif. Alors, le deuxième, et Michel Maxime vient de faire référence à ce modèle des quatre cadrans de Ken Wilber. Donc, ceux qui suivent le MOOC Transition intérieure ont déjà eu une première approche de ce modèle-là. Moi, ici, je ne vais pas le développer puisque ceux-là ont déjà eu les explications autour de ça, mais je voudrais juste mettre un accent qui me semble capital, quelque chose que permet ce modèle des quatre cadrans et qui illustre assez bien justement cette dimension intégrative, simplexe et holistique du modèle en question. Ce modèle des quatre cadrans, eh bien, qu'est-ce qu'il permet? Il permet de sortir d'une opposition un peu binaire dans laquelle on est vite coincé dans les milieux transition et les réflexions sur la crise écologique. C'est une vision entre une idée selon laquelle on devrait se changer soi-même, qui correspond au premier cadran, qui reflète ce qui relève de l'individuel intérieur et qui est souvent mis en opposition avec ce qui relève des changements structurels de l'ordre du collectif extérieur. Et il y a un peu un dialogue conflictuel entre ces deux manières de s'engager, comme si finalement elles étaient totalement antithétiques. Et je trouve que ce que permet le modèle des quatre cadrans de Wilber, notamment, c'est d'une part de montrer qu'en fait, ce qui est extérieur n'est pas forcément collectif. Donc, il y a toute une façon aussi de s'engager qui est ni lutter contre les structures, ni forcément changer soi-même. Vous pouvez imaginer, vous faites un potager collectif, vous inscrivez dans un GAC, vous prenez votre vélo plutôt que votre voiture, vous changez les comportements. Mais surtout, et c'est dans ce cadran-là que j'ai envie d'inscrire ce qui va suivre, et qui est pour moi un peu un angle mort dans les réflexions sur le changement social lié à la transition, c'est qu'il existe une dimension qui est intérieure mais collective. Donc le changement intérieur, une transition intérieure, ce n'est pas forcément un changement qui est strictement individuel, mais ce troisième cadran, celui intérieur collectif, permet de montrer l'enjeu énorme qu'il y a à faire évoluer et à transformer assez profondément nos croyances collectives partagées, c'est-à-dire en fait notre culture dans ce qu'elle a de fondement idéologique. Et donc moi, c'est, disons, bien que les autres, ici, ce n'est pas de dire quel est le cadran fondamental, justement, l'idée, c'est de dire que ces quatre cadrans sont essentiels, mais en tout cas, moi, j'inscris mon propre travail principalement dans ce troisième cadran. Alors, le modèle que je vais vous présenter, c'est celui-là, que j'ai appelé le modèle des strates de l'écologie intégrale ou de la transition intégrale. Et la métaphore des strates géologiques permet en fait, d'identifier des niveaux d'analyse et de réflexion autour de la crise écologique et de la transition, dont certains niveaux d'analyse sont très visibles, les strates supérieures, c'est ce qu'on voit, c'est ce qui est immédiat, et qu'on peut du coup progressivement aller en creusant de strate par strate, découvrir des dimensions qui sont plus cachées, plus implicites, qui sont, voilà, qui relèvent peut-être de formes relativement inconscientes et qu'il est intéressant d'identifier, notamment pour conscientiser, pour amener et d'amener dans le débat. Alors, l'idée, ce n'est pas que plus c'est profond, mieux c'est, ou plus c'est profond, plus c'est important. Donc, il n'y a pas l'idée il n'y a pas cette idée-là. Il y a plutôt l'idée de pouvoir valoriser chacune de ces dimensions et de penser leur articulation. Alors, les trois premières, je vais passer assez rapidement, même beaucoup trop rapidement, vais pour ainsi dire presque seulement les nommer, afin de pouvoir approfondir la quatrième strate en particulier et la cinquième, qui touche plus du coup la thématique de la transition intérieure. Alors, la première strate, celle qui saute aux yeux et quelque part pour une grande et assez écrasante majorité de personnes quand on parle de crise écologique et qui ne reflète sans doute pas la pensée de vous qui participez à un MOOC sur la transition intérieure ou qui participez à une conférence sur la transition intégrale. Mais enfin, il ne reste qu'une part assez significative de la société, en tout cas des grandes institutions internationales, des États, des discours officiels, etc., a une vision de la crise écologique et du coup de la transition comme un problème technique, un problème d'ingénieur. Quelque part, il faut développer des nouvelles technologies, améliorer l'éco-efficience, décarboner l'économie, toute une série de choses qui peuvent être mises en place sur le plan technique et qui sont du coup censées remédier à la crise écologique. Alors, moi, je pense qu'effectivement, l'énergie étant partout et étant une condition de possibilité du développement finalement de la société techno-industrielle dans laquelle on évolue, la question technique et énergétique est cruciale. Donc, ce serait vraiment une erreur, je pense, que de l'éclipser purement et simplement. Après, dans l'idée des strates, il faut intégrer l'idée que cette dimension technique, et je pense qu'on n'aurait pas trop de mal dans ce contexte où on est ce soir à se mettre d'accord là-dessus, ne sera pas suffisante pour amorcer le changement de société en cours, et que d'autres types de diagnostics et d'analyses doivent être mis en complémentarité avec ce niveau technique. Alors, une première autre strate qui se dévoile, du coup, quand on continue à creuser, c'est celle des changements de comportement. Donc, ce n'est pas juste en plaçant des éoliennes et des photovoltaïques qu'on va sortir de la crise, il faut aussi qu'on adapte nos comportements de consommation, et pas seulement de consommation, mais aussi de transport, notre vision, voilà, notre vision de notre façon de gérer nos loisirs. Et donc là, il y a toute une série d'initiatives qui se développent, et c'est assez prolifique, qui vont dans le sens de la consommation, la prise de conscience de la valeur finalement politique de nos choix de consommation, mais aussi de la simplicité volontaire, le fait de renoncer à consommer dans certains cas, et qui est lié aussi avec un constat d'individualisme que certaines pratiques comme la création de groupes d'achat commun, etc., permet éventuellement de solutionner par le même biais que ça permet de changer notre manière de nous pourvoir en aliments et en produits de fermiers, etc. Mais bon, miser uniquement sur un changement de comportement par les individus, ce serait faire l'impasse sur les enjeux évidemment systémiques et structurels de notre modèle de société qui pèse pour une part lourde sur l'empreinte écologique de nos sociétés et puis qui continue finalement, tant qu'elle continue à poursuivre les idéaux de croissance et de productivisme, il est clair qu'un changement de comportement et une amélioration de l'éco-efficience des technologies ne permettra pas que l'empreinte globale puisse diminuer. Et donc, dans cette troisième grille d'analyse, c'est la crise du capitalisme, diront certains, mais moi je préfère parler de la crise du productivisme parce que finalement capitalisme et communisme partagent ce même axiome productiviste qui est celui, à mon sens, qui pose problème, cette vision selon laquelle l'augmentation de la production finalement est synonyme de développement et de bonheur humain, cette vision de la croissance indéfinie. Et derrière cela, une crise assez importante de notre projet de société qui, depuis l'industrialisation, a finalement fusionné avec les objectifs de croissance et de productivisme. Alors, si on les abandonne, eh bien, ça laisse une place assez béante qui est en même temps assez angoissante et peut-être aussi une opportunité justement pour engager la transition. Mais tout ça, donc, c'est un très énorme travail sur nos institutions sur nos modèles économiques et politiques. Après, bon, on pourrait se dire, bon, là, on a déjà pas mal de dimensions. Si déjà on pouvait changer ces trois strates-là, ce serait déjà énorme. Alors, pourquoi finalement continuer à creuser? Pourquoi continuer à creuser? Parce que, au fond, pour changer ces structures, ce qu'on voit bien qui est vraiment absolument nécessaire, eh bien, on est obligé, notamment pour créer un nouveau projet de société, pour créer des alternatives, de changer les croyances à partir desquelles ces structures ont été forgées. Et c'est là, évidemment, qu'intervient cette quatrième strate que je vais vous présenter, qui est donc une strate philosophique et qui touche justement notre système de croyances. Je vous mets ici une petite citation de Willis Hartman qui dit, là, je ne vois pas tout mon PowerPoint, donc il faut que je mette ça en plus. Nous vivons un des changements les plus fondamentaux de l'histoire, la transformation du système de croyances de la société occidentale. Aucune puissance politique, économique ou militaire ne peut se comparer à la puissance d'un changement au niveau de notre esprit. En changeant délibérément leur image de la réalité, les hommes, on devrait dire les humains, sont en train de changer le monde. Et donc c'est vraiment cette espèce de changement en même temps très implicite, là on est déjà dans la quatrième strate, donc on n'est pas vraiment dans des questions qui sont fort médiatisées, qui sont fort présentes sur la sphère publique, dans les débats publics, etc. On est sur une sorte de lame de fond avec un bouleversement assez profond de ce système de croyances de la société occidentale que philosophiquement on peut résumer, même ce qui comporte plein de facettes. Hein. Donc ici évidemment il y a des... On est dans quelque chose d'assez résumé, mais on peut le résumer, je pense, en disant que c'est une crise de la modernité. La modernité qui est donc cette période historique qui démarre à la fin du Moyen-Âge et qui se poursuit ben, quelque part jusqu'à aujourd'hui, parce qu'on reste héritier de la modernité, mais en tout cas, disons, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Après ça, on passe vers des formes post-modernes. Mais bon, globalement, on reste dans le sillage de cette culture moderne qui a toute une série de caractéristiques que je vais épingler maintenant. Et notamment une importance très forte accordée à la rationalité, à l'individu et à l'émancipation de l'individu par rapport à la collectivité, l'émancipation de l'individu par rapport à la nature et la foi en le salut, en une forme de salut par la science et les technologies. Donc ça, bon, en résumé, c'est un peu ce qu'on peut épingler comme caractéristique de ce qu'on appelle la modernité. Alors, en lien avec la crise écologique, on peut donc parler d'une crise de la modernité, qui est quelque chose qui a été théorisé par plein d'autres penseurs, pas seulement les éco-philosophes, par d'autres penseurs aussi, mais qu'ici, dans le domaine de l'éco-philosophie, on peut caractériser, je dirais, en trois dimensions, mais en tout cas, j'identifie trois sous-branches philosophiques dans lesquelles on peut parler d'une forme de crise de la vision moderne et du système de croyance de la modernité. Alors, la première, c'est une crise anthropologique, c'est-à-dire une crise de la représentation moderne de ce qu'est l'humain. Alors, la représentation moderne de ce qu'est l'humain, c'est donc, comme je le disais juste avant, une vision d'un humain, individu, sujet, rationnel. Et puis, c'est aussi, la modernité est aussi contemporaine au projet colonial, finalement, qui débute en même temps que la modernité au sortir du Moyen-Âge. Et donc, il y a aussi tout ce mouvement de mise sous tutelle des pays du Sud et tout ce mouvement extractiviste qui a rendu possible, en fait, le développement de la société techno-industrielle au Nord et donc qui fait partie de ce paradigme moderne, en tout cas de la façon dont aujourd'hui on va le décrire. Et un paradigme dont certains diront qu'il reflète une forme de patriarcat parce que ce sont des valeurs traditionnellement associées au masculin, des valeurs de conquête, de domination et d'extraction qui prédominent en écrasant finalement dans le même mouvement les valeurs plus féminines de soins et tout comme la nature et les peuples colonisés. Et donc, on va parler de ce gros mot qu'est le phallo-logo-occidentalocentrisme, c'est-à-dire finalement une vision de l'humain qui est biaisée par un centrement excessif sur une vision en même temps rationnelle, occidentale et masculine, et qui génère finalement la crise écologique dans un certain sens, en tout cas qui en est l'une de ses racines, de ses matrices. Alors, une deuxième sous-catégorie philosophique, c'est celle des enjeux éthiques avec toute cette grande question qu'est la question de la valeur de la nature. Alors, la réponse moderne à la question de la valeur de la nature, elle est assez simple, c'est que la nature n'a pas de valeur, si ce n'est une valeur instrumentale. Donc, dans la modernité, la question même de la valeur de la nature ne se pose quelque part pas parce que la nature a le même statut que les choses, en fait. Il n'y a pas de statut éthique spécifique pour la nature. Et donc, voilà, il n'y a pas de... Seul l'être humain est doté d'une valeur propre. Évidemment, cette vision anthropocentrique à l'heure actuelle est assez largement remise en question et j'en reparlerai après. Alors, le dernier point, et là aussi, si vous voulez, on descend dans les strates les plus implicites de la strate philosophique elle-même. Donc, on est dans quelque chose qui devient vraiment assez abstrait peut-être pour certains. Mais derrière ces enjeux anthropologiques et éthiques, il y a ce qu'on appelle des enjeux ontologiques. Alors, ontologique, ça a l'air impressionnant comme mot, mais ça veut simplement dire que c'est des enjeux qui touchent notre vision de ce qu'est la réalité. Derrière la question de la valeur de la nature, quand on tire le fil, on en arrive à des questions très fondamentales de ce qu'est pourtant sur, au fond, la réalité. Et là, c'est le modèle dualiste hérité de Descartes qui a prévalu vraiment comme arrière-fond de la tendance dominante de la modernité qui est mise en question. Cette vision dualiste qui sépare le sujet et l'objet, qui sépare l'homme de la nature, mais qui sépare aussi l'esprit de la matière. Donc, voilà, ce sont ces trois dimensions, le phallo-logocentrisme, l'anthropocentrisme et puis ce dualisme moderne qui pose problème et que la crise écologique nous invite à dépasser ou en tout cas, la crise nous invite à chercher des alternatives à ces différentes dimensions, cette représentation de l'humain, de l'éthique et de la réalité. Donc, vous voyez, c'est tout un programme philosophique, c'est pas évident. Et ici encore, comme dans pas mal de questions, on trouve chez Ken Wilber des outils vraiment intéressants en fait, pour aborder les choses de manière transversale et intégrative, pour aller au-delà des dichotomies, des oppositions. Et notamment, il y a un couple conceptuel qui est très opérant, je trouve, chez Ken Wilber, qui est la distinction pré-trans. Alors, la distinction pré-trans, elle est intéressante quand on cherche à dépasser la modernité parce que ça permet simplement d'identifier trois moments. Donc, dans sa pensée, il y a souvent des triptyques comme ça. Et donc, on a le moment moderne, précédé du moment pré-moderne, et l'idée, c'est de s'engager vers une forme de transmodernité. Et cette transmodernité, ce n'est pas juste un contre-pied de la modernité ni un retour à la pré-modernité, mais c'est une intégration de ces différents modèles. Alors, un exemple pour comprendre ce triptyque, c'est de prendre l'une des idées qui est assez centrale dans toutes les démarches éco-philosophiques au sens large, c'est cette aspiration qu'on ressent à recréer du lien entre nous, recréer du tissu social, recréer un sens de la communauté quelque part qu'on a un peu perdu avec la modernité, et puis retisser aussi du lien avec la nature. Et si vous voulez, pour comprendre le triptyque pré-moderne, moderne, transmoderne, cette question du lien est intéressante parce que chez Wilber, on pourrait donner comme interprétation wilberienne l'idée que la modernité, c'est un paradigme de la déliance, quoi, de la rupture de lien, ça c'est clair, qui est le deuxième temps d'un moment pré-moderne qui était marqué par des liens, on peut dire, fusionnels. Et l'enjeu aujourd'hui dans le rapport au lien, c'est précisément de retisser du lien, mais sans nier la séparation, sans nier la déliance, mais en l'intégrant et en la prenant comme base à partir de laquelle on va renouer avec du lien et avec du collectif. Et avec cette idée qu'on trouve aussi chez Edgar Morin, que la séparation rend possible la relation. Et je trouve que là, parfois, dans les milieux un peu éco, spiritualité, transition intérieure, etc., parfois, il y a un peu une confusion, je trouve, entre reliance et lien fusionnel, en fait. Est-ce qu'il faut retourner à une fusion ou est-ce qu'il faut justement dépasser la déliance pour retisser du lien? Donc, ce concept de reliance me semble assez central et c'est aussi l'avis d'Edgar Morin, donc je me dis que je ne peux pas être complètement dans l'erreur, puisqu'il considère, lui, que ce concept de reliance, c'est le cœur de l'éthique dans le paradigme de la pensée complexe. Alors donc, dans le rapport aux autres humains, on a cette idée de reliance, mais on peut retrouver aussi ce triptyque dans le lien à la nature, puisque à un premier stade de fusion humain-nature a succédé dans la modernité, donc ici à nouveau une coupure, une dissociation, et cette dissociation est regrettable et doit être dépassée, mais pas, encore une fois, en niant tout type de séparation. Donc, c'est retisser du lien sans nier la séparation. Et donc, il faut distinguer, si vous me permettez, la dissociation de la séparation. La dissociation est regrettable, mais la séparation est positive à partir du moment où elle permet de retisser du lien sur cette base. Donc voilà, ça, je pense qu'avec ce tableau là que je vous projette pour l'instant, il y a déjà pas mal d'éléments pour penser une éco-philosophie. Mais je n'ai pas pu résister à la tentation d'aller un petit peu plus loin avec vous sur quelques enjeux éco-philosophiques. Bon, pour ceux pour qui ça deviendrait un peu trop abstrait, vous vous mettez sur off tout simplement, vous respirez un bon coup et on se retrouve dans 2 minutes quand j'aurai fini cette strate philosophique dans ces développements un peu ultérieurs. Donc j'avais envie en fait de réfléchir un peu avec vous, de vous proposer plutôt une réflexion autour du dépassement de l'anthropocentrisme. Parce que là aussi, je trouve que parfois dans les milieux un peu écologie, transition intérieure, eh bien, il y a quelques confusions que je pense qu'une pensée assez intégrative comme celle de Wilber, elle peut nous apporter des outils intéressants pour y réfléchir. Donc l'anthropocentrisme pose problème, ça tout le monde est assez d'accord là-dessus, enfin pas tout le monde, mais en tout cas je pense qu'on peut assez facilement argumenter que c'est une vision qui, outre le fait qu'elle est assez peu intuitive finalement, pose énormément de problèmes, et des problèmes éthiques en particulier. Donc c'est cette vision dans laquelle l'humain est au centre, unique être doté d'une valeur propre, s'opposant à un monde d'objets à sa disposition. Alors, quelle alternative pour l'anthropocentrisme ? Alors, on va souvent avoir spontanément l'élan de passer de ce modèle anthropocentrique à ce qu'on va appeler le biocentrisme ou l'écocentrisme. Et effectivement, c'est un mouvement qui semble salutaire et qui l'est dans une certaine mesure, puisqu'on doit aujourd'hui prendre conscience de l'insertion de l'humain dans une totalité écosystémique plus large. On doit prendre conscience du fait que, tout du moins sur le plan scientifique, l'être humain est un vivant parmi d'autres au sein d'un réseau écosystémique qui a un impact sur cet écosystème, et cet écosystème a également un impact sur lui. Donc on est vivant parmi les vivants. Nous ne défendons pas la nature, nous sommes la nature qui se défend, comme on pouvait le lire sur les calicots pendant les marches pour le climat. Donc là, évidemment, ça plaît à fond pour la vision biocentrique. Seulement, il faut distinguer en fait cette vision scientifique des enjeux éthiques qui sont liés. Parce que si vous découlez purement et simplement un modèle éthique de cette vision qu'on appelle l'égalitarisme biosphérique, eh bien, on en arrive à des dérives potentiellement totalitaires qui ne sont vraiment pas à laquelle on aspire, puisque sans aucune distinction qualitative entre les règnes, on est incapable de faire la différence finalement en termes éthiques entre la valeur d'une vie humaine, la valeur d'un phytoplancton et la valeur d'un brin d'herbe. On doit pouvoir garder une forme de gradation et de distinction qualitative au sein du réel. Mais ça ne nie pas le fait qu'on doit aussi intégrer cette idée de totalité écosystémique. Et donc, vous voyez, moi, mon idée, c'est qu'on doit passer d'un modèle en 2D à un modèle en 3D. C'est ça que je voulais vous amener maintenant, avec finalement cette idée de pyramide. Alors, je sais que ça ne passe pas très bien, parce qu'aujourd'hui, on n'aime pas tellement les pyramides, les hiérarchies, etc. Moi, je pense qu'on ne sort pas vraiment de ce problème de dépassement de l'anthropocentrisme si on n'intègre pas quand même une forme de hiérarchie ou de gradation. Mais non exclusif, c'est-à-dire qu'on peut passer à un modèle, si vous voulez, où on intègre dans un certain sens l'idée de l'humain inséré dans une totalité écosystémique, mais aussi l'idée qu'il puisse y avoir des différences qualitatives entre des règnes. Et là, on arrive à, sur base de 2 modèles en 2D, un cercle, un triangle, mis ensemble, ça nous donne un cône, si vous voulez. Et ce cône, c'est ce qu'on pourrait appeler un humanisme écocentré ou un écocentrisme humaniste, et qui permet finalement de penser tout à la fois la valeur intrinsèque de la totalité des êtres, mais une valeur intrinsèque qui peut aussi intégrer des distinctions qualitatives. Donc voilà, ça c'est un des 2 points un peu plus techniques que je voulais vous amener, avec cette petite parenthèse sur la notion de hiérarchie, parce que je sais que bon, ça ne passe pas toujours très bien, mais là aussi je trouve chez Ken Wilber une distinction entre ce qu'il appelle des hiérarchies d'oppression ou opprimantes et des hiérarchies de croissance. Donc, des hiérarchies opprimantes, c'est par exemple le système des castes. Mais les hiérarchies de croissance, c'est des autres formes de hiérarchie qui traduisent l'augmentation, par exemple, de la capacité d'être conscient, de faire preuve de compassion, de développement cognitif, moral, etc. Et il dit, les hiérarchies dominatrices causent l'oppression et les hiérarchies de croissance y mettent fin. Pouvez-vous voir à quel point cela constitue un véritable désastre lorsque l'on condamne toutes les hiérarchies ? Donc, on trouve ça dans le livre, le livre de la vision intégrale. Alors, pour arriver à ce modèle en 3D, le problème, si vous voulez, qui réaffirme la nécessité de creuser en fait, jusqu'à la strate ontologique, jusqu'à notre vision de la réalité, c'est que ce modèle en 3D n'est pas possible sur le sol ontologique dualiste. Et donc, nous devons aller jusqu'à une remise en question de ce sol ontologique, et c'est ce qui fait dire à Kenneth White, qui est ici cité par Victoria Hösle, que l'écologie, bien comprise et bien développée, gêne profondément certains esprits. Ils y sentent une menace, non seulement pour leur système socio-économique, mais aussi pour leur système ontologique. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose d'un peu de cet ordre-là, quoi, qu'il faut finalement apprendre à gérer, c'est que tout doit être transformé, y compris le sol ontologique, c'est-à-dire les croyances les plus implicites à partir desquelles on a appris à fonctionner depuis plusieurs siècles. Et donc, à cet égard-là, et ça, c'est le deuxième point un peu technique que je vous amène, et après ça, on repartira vraiment sur les questions du modèle en strate. À ce dualisme humain-nature est associé un dualisme esprit-matière, que j'ai symbolisé ici. Le triangle, c'est l'esprit, et la matière, c'est le carré. Alors, la vision dualiste, c'est celle qui prévaut par défaut. On trouve son fondement chez Descartes, avec sa res cogitans, res extensa, que vous connaissez sûrement. On retrouve ce dualisme implicitement chez Kant, et on le retrouve chez des auteurs contemporains, notamment qui s'intéressent à l'écophilosophie, comme Luc Ferry, qui inscrit finalement sa vision dans ce cadre dualiste. Alors, une tendance qu'on retrouve tant chez les gens qui s'intéressent au lien esprit-matière en philosophie des sciences que dans le domaine de l'écologie, à ceux qui réfléchissent finalement au lien de l'humain à la nature, il y a une interprétation qui va dans le sens finalement de ce qu'on appelle le monisme matérialiste, c'est-à-dire qu'il n'y a plus deux substances comme dans le dualisme, il n'y a plus qu'une substance, le réel est unitaire, mais cette unité est en fait une unité matérielle, donc un flux organique, un flux de matière organique. Et l'humain doit prendre conscience, l'humain émerge de la matière par complexification. Donc il y a l'évolution de la matière, l'évolution de la réalité, et la complexification des agencements matériels donne naissance à un moment à une conscience subjective, comme on la retrouve chez l'humain et dans d'autres formes de vie également. Et donc, finalement, ce que doit faire l'humain, c'est prendre conscience de son appartenance à cette totalité matérielle, en fait, de laquelle il est issu. C'est ce qu'on retrouve chez quelqu'un comme Spinoza ou chez Arnaès, et que Wilber, justement, encore lui, va en fait assez fortement critiquer pour cela, en disant oui, mais quelle est la valeur de ce tout auquel on doit s'identifier si c'est juste un agrégat de particules, d'atomes et de molécules ? Bon, comment fonder une éthique sur cette base ? Alors, un troisième modèle voit le jour aujourd'hui, et vous m'expliquerez le terme, mais je n'ai pas vraiment encore trouvé mieux. Et c'est le terme qui est utilisé notamment par Hegel et puis Victoria Hösle, qui est un philosophe de l'écologie contemporain. C'est le modèle qui correspond à celui que propose aussi Wilber, et pour ceux qui connaissent, le philosophe indien Sri Aurobindo. Alors, c'est au fond une forme d'intégration aussi des deux modèles précédents, mais eux disent que l'enjeu de la crise écologique, c'est changer de métaphysique et s'engager dans une métaphysique qui, oui, effectivement, pose que la conscience subjective émerge de la matière, mais que cette matière elle-même émerge en fait de ce qu'ils appellent l'esprit absolu ou l'un ou encore Dieu, si on veut en donner une interprétation spiritualiste ou religieuse. Il y a donc préséance de l'esprit sur la matière. Alors bon, évidemment, on est dans la spéculation métaphysique qui peut être un peu abstraite, mais voilà, en tout cas, certains posent vraiment cette transformation-là de ce sol ontologique et métaphysique comme la condition en fait, de possibilité de l'élaboration d'un nouveau modèle, d'un nouveau projet de société. Bon, c'est vraiment des choses qui se passent évidemment implicitement, hein, il ne s'agit pas de ratifier consciemment, mais que c'est ça qui est en jeu, quoi, c'est ce qui s'identifie comme étant en jeu. Alors évidemment, quand on est sur ces questions métaphysiques assez profonde, on est à cheval, si vous voulez, entre la quatrième et la cinquième strate, pour revenir au modèle que je suis en train de vous présenter aujourd'hui. Donc, la strate philosophique qui interrogeait le rapport de l'humain à l'autre, aux autres qu'humains, le rapport de l'humain aux autres humains aussi. et le rapport de l'humain à la réalité, eh bien, derrière cela, il y a plus profondément ce que certains vont identifier comme en fait une crise de la société matérialiste occidentale, une crise de la société matérialiste occidentale que Max Weber a qualifié ou a décrit comme finalement un mouvement de désenchantement du monde. Désenchantement du monde qu'on peut comprendre, et je pense à la philosophe française Catherine Larère qui parle de la transformation d'une cathédrale en entrepôt de marchandises, pour parler de la vision de la nature telle qu'elle s'est développée pendant la modernité. La cathédrale, qui était une forme de cosmos, un tout ordonné, devient nature, puis environnement, puis ressources, et puis finalement marchandises. Et l'humain face à un cosmos, ce n'est pas la même chose qu'un humain face à un monde d'objets, face à un monde d'objets qui ont une valeur marchande et qui sont à sa disposition, plus ou moins en fonction de son pouvoir d'achat. Et que ce désenchantement, en fait, il crée un malaise assez profond, et que la crise écologique touche et appelle un dépassement de ce malaise profond qu'est ce désenchantement du monde associé au matérialisme. Et puis là où les choses se compliquent un peu, c'est que bon, classiquement, on oppose matérialisme à spiritualisme et éventuellement à religion. Mais sur ce thème-là, le rôle justement des religions est un peu paradoxal, parce que d'un côté, il y a toute une série de mouvements de relecture qui permettent de puiser dans les bagages spirituels et religieux de l'humanité des ressources pour la transition. Mais les religions ont aussi été placées sur le banc des accusés, et notamment les monothéismes, qui ont cette caractéristique d'être des religions transcendantalistes, c'est-à-dire qui placent Dieu à l'extérieur du monde créé, et qui s'opposent, ce faisant, à des visions correspondant à l'animisme ou à des formes de panthéisme dans lesquelles le sacré est immanent, c'est-à-dire le sacré est présent dans la nature. On a reproché aux monothéismes de manifester de manière trop exclusive une vision transcendantaliste du sacré, qui aurait finalement, en posant Dieu à l'image de l'homme et l'homme comme un créateur extérieur au monde, aurait été finalement, avant même l'essor de la modernité, aurait donné la matrice idéologique qui aurait donné lieu finalement ultérieurement à ce désenchantement du monde, avec un mouvement de sécularisation ou finalement du théocentrisme dans laquelle le Dieu est central et l'humain extérieur à lui et extérieur à la nature. On se serait progressivement passé de l'hypothèse de Dieu, finalement, pour ne garder que cette relation d'externalité entre l'homme et la nature. Donc voilà, les religions sont parfois sur le banc des accusés par rapport à cette question de la présence du sacré dans la nature. Alors là, ça crée une dichotomie qui n'est pas non plus une fatalité, et notamment on a comme co-organisateur de l'événement d'aujourd'hui, Michel Maxime Egger, dont j'apprécie vraiment beaucoup la pensée, et qui a beaucoup parlé autour de cette possibilité finalement de réconcilier sacré transcendant et sacré immanent, de façon à ce qu'il ne faille pas forcément que l'éco-spiritualité se fasse dans le rejet pur et simple des bagages spirituels et religieux de l'humanité, soit en ne focalisant que sur le chamanisme et l'animisme, en grande partie fantasmé parce qu'il en reste plus grand-chose chez nous et que l'exotisme ne permet pas toujours de comprendre les choses dans leur profondeur et leur spécificité, ou alors en créant purement et simplement du neuf, ce qui est essentiel aujourd'hui. On doit créer du neuf, on doit inventer, mais après se couper de tout un bagage historiquement recelant en fait aussi des trésors et des ressources en fait pour nous orienter dans cette tentative actuelle de resacraliser notre rapport au monde, de nous transformer nous-mêmes, de nous rendre capables en fait de toutes ces différentes transformations qui doivent avoir lieu dans la société, nous rendre résilients aussi. Alors voilà, j'ai passé en revue les 5 strates. Maintenant, je vais vous montrer un peu la carte globale telle que je la conçois. Alors, je vous ai donné un peu les diagnostics, le diagnostic technique, comportemental, politico-économique, philosophique, spirituel. Et au fond, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'à chacun de ces diagnostics correspond une vision de ce qu'est l'engagement ou de ce en quoi correspondent des manières de s'engager dans la transition intégrale. Donc, on a toute une série d'acteurs qui vont, parce que ce qui leur parle, c'est vraiment ce diagnostic technique, cette question de l'énergie, de l'éco-efficience, qui vont s'investir dans l'innovation technologique. Et c'est essentiel qu'il y ait des gens qui le fassent pour développer des technologies vertes, mais ça peut être aussi développer un Ripper Café, s'investir dans le low-tech. Il y a tout un champ vraiment assez intéressant là-dedans pour l'innovation, mais vraiment au sens technique et technologique du terme. Alors, il y a les alter consommateurs qui vont créer des nouvelles pratiques de consommation, qui vont se mettre un point d'honneur à prendre conscience et à faire prendre conscience du pouvoir finalement qu'on a en achetant des produits ou de l'importance de boycotter certaines façons de consommer, l'importance aussi de diminuer nos déchets, de faire toute une série d'éco-gestes qui nous permettent au final de créer de nouvelles pratiques sociales. Et c'est vraiment essentiel parce que ce que font ces gens-là, on va dire oui, c'est l'écologie des petits gestes ou l'écologie des colibris, c'est essentiel parce que c'est ça qui crée les nouvelles pratiques sociales sans lesquelles, au fond, on ne pourra pas construire la nouvelle société. Alors, il y a les éco-activistes. Alors, on parle pas mal ces derniers temps d'Extinction Rebellion. Ça, on peut clairement les situer sur cette strate-là, ainsi que tous ceux qui, vraiment, ont fort à cœur de mettre l'accent sur les dimensions structurelles, sur le bras de fer quelque part qui doit être mené, avec cette idée par exemple qu'on retrouve que le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle, que finalement il y a quelque chose, il y a un combat à mener en fait pour amener le changement, pour amener une nouvelle société au niveau de ses rouages même, au niveau de sa structure, de son mode de fonctionnement, et puis au niveau de ses modèles aussi. Il y a tout un travail à faire sur les modèles économiques, les modèles politiques à partir desquels en fait on pense la société. Les éco-activistes, alors les écosophes qui veulent travailler en amont de ces derrière en fait ces autres formes d'engagement, il y a l'importance de créer les nouvelles, de participer à la création d'un autre rapport au monde, en fait, d'un autre rapport au monde, d'une autre vision du vivant. Et ce n'est pas seulement théorique, c'est aussi pratique, c'est une autre façon de se rapporter au vivant. Ça demande toute une série de pratiques, d'assaises, d'exercices pour changer ce rapport au monde. Et puis, il y a les éco-spiritualistes. Alors là, moi, j'ai mis retrouver l'immanence parce que pour moi, c'est vraiment ce qui pointe vraiment le cœur et la spécificité de l'éco-spiritualité par rapport à d'autres courants spirituels ou d'autres sensibilités. C'est vraiment retrouver le sens de la sacralité du monde. Retrouver le sens de la sacralité du monde, une sacralité qui est là dans la nature, qui est là dans le vivant, qui est partie intégrante du monde et qui n'est pas réservée à certains espaces ou à certains moments et à certaines zones, même s'il peut être plus intense dans certains lieux. Mais... Et donc voilà, ça nous donne au final ces différentes façons de s'engager dans la transition, ça nous donne une forme d'écosystème avec des effets d'action, de rétroaction de l'une sur l'autre, de ces formes d'engagement. Alors j'avais écrit là-dessus avec Emeline de Bouver qui travaille justement sur les différentes formes d'engagement social dans la transition. Donc si vous voulez aller plus loin, vous pouvez aller voir cet article qui est disponible gratuitement en ligne. Et je voulais terminer avec cette belle image que j'ai trouvée sur Internet d'un tissage. Parce que je pense que dans cette recherche avec laquelle j'ai commencé cet exposé de modèle holistique pour penser une transition intégrale, la métaphore du tissage est assez parlante. Et j'ai mis également cette citation d'Edgar Morin. Ah. Je ne vois pas complètement parce que j'ai toute une série de choses, mais que je vais essayer de lire quand même. Ou bien, est-ce que quelqu'un peut la lire? Parce que moi, je la... Ah non, voilà. Quand je parle de complexité... Je me réfère au sens élémentaire du mot complexus, ce qui est tissé ensemble. Les constituants sont différents, mais il faut voir, comme dans une tapisserie, la figure d'ensemble, semble. Le vrai problème de la réforme de pensée, parce qu'il parle là de sa réforme de pensée qui doit advenir pour l'ère écologique, c'est que nous avons trop bien appris à séparer et il vaut mieux aujourd'hui apprendre à relier. Voilà, je vous remercie. J'ai terminé mon exposé avec cette belle citation d'Edgar Morin.
Waouh! Merci Charlotte, merci infiniment pour cette présentation que vraiment j'ai trouvée éclairante, j'aurais presque envie de dire vraiment lumineuse, enfin peut-être complètement pour moi dans ce simplex dont tu as parlé au début, c'est-à-dire à la fois vraiment rendant vraiment complètement compte et justice à la complexité, et puis en même temps extrêmement clair, pédagogique, substantiel, profond. Donc vraiment, je suis ravi, grand, grand merci, et puis avec toutes ces nuances qui justement sont pour moi aussi extrêmement importantes pour éviter de faire de la transition, de l'écologie, une nouvelle idéologie. Donc là, je crois qu'on a aussi par rapport à ça plein de garde-fous pour nous permettre d'éviter de tomber dans ces pièges-là. Et puis on a alors, je pense, une superbe matière très riche pour réfléchir et pour pouvoir un petit peu voilà, commencer à dialoguer, à discuter, parce que l'idée aussi, ce n'est pas que forcément on soit d'accord sur tout avec ce que tu as présenté, mais qu'on puisse justement dialoguer là autour.